Vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. On est arrivé au discours du roi. Et on va voir ce matin les valeurs du royaume. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 16. Si vous êtes membre de l'EBTM, vous avez certainement, vous auriez dû en tout cas, suivre le PIM, le parcours d'intégration comme membre. Et dans ce parcours, on vous a présenté la vision de l'EBTM, mais aussi ses valeurs. L'objectif, au fond, de nos valeurs, c'est de décrire comment nous voulons vivre l'Église. Et nous chérissons 12 valeurs, telles que une Église qui annonce et vit passionnément l'Évangile, une Église qui prie, qui cherche Dieu et l'écoute, une Église qui cherche la sainteté, la conformité à Jésus-Christ, une église qui forme des disciples, qui forme des disciples. Une église qui vit des relations fraternelles authentiques. Une église qui s'engage dans l'œuvre missionnaire au près comme au loin, en partageant l'amour de Dieu. Il y en a 12 comme ça. Voilà les 6 premières, ou en voilà 6. En devenant membre, vous acceptez de prendre à cœur ces valeurs et de vous efforcer à les vivre. Ce n'est pas que nous sommes déjà une telle église, mais c'est ce que nous poursuivons tous ensemble, c'est ce que nous voulons être. Eh bien, c'est ce que Jésus fait ici dans son premier message. Il va présenter les valeurs de son royaume. Et vous comprenez bien que ce n'est pas lui qui a copié sur nous, mais le contraire. Et donc, je vous propose de voir les valeurs du royaume et qui ont... influencer, impacter, diriger, conduire nos propres valeurs. Je vous en fais la lecture en Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 16. À la vue de ces foules, juste peut-être pour remettre le contexte, Jésus a commencé à faire débuter son ministère dans le chapitre précédent et il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de gens le suivent, il commence à enseigner. Voilà ce qu'il dit. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière luise, brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Les béatitudes ont un côté... révolutionnaire. À la fois, elle nous attire et à la fois, elle nous éclaire presque trop. Les valeurs du royaume ne renversent pas les trônes par la force, mais elles renversent la logique qui domine nos vies. Jésus ne cherche pas à prendre le pouvoir. Il veut changer les cœurs. Et lorsque le cœur change, tout change. Et c'est notre grande joie, notre grande espérance. Quand on parle de révolution, on pense à des foules, à des slogans, à des affrontements, à des changements de régime. Pensez à ce que vive, ce que vit le peuple iranien en ce moment. Combien on espère qu'il renverse le pouvoir tyrannique qui domine sur eux depuis des années. Mais Jésus, pour faire sa révolution, lui, il monte sur une montagne. Il s'assoit et il parle. Aucune arme, aucun programme politique. Et pourtant, ce discours a bouleversé l'histoire plus profondément que bien des révolutions armées. Il s'adresse ici à ses disciples et à la grande foule qui le suit. Le premier message, donc public, qu'il donne, s'ouvre sur ses béatitudes. On voit ça dans les versets 3 à 10. Chacune est introduite par le mot « heureux ». D'entrée, Jésus bouleverse notre conception du bonheur. Là où la logique du monde dit « heureux les forts, heureux les riches, heureux les dominants, heureux les reconnus », la logique du royaume affirme « heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les persécutés ». Pour Jésus, le bonheur ne dépend ni de ce que l'on possède, ni de ce que l'on maîtrise, mais de notre relation avec Dieu. Il ne se confond pas avec le rire ou l'absence de difficultés, mais se trouve dans une communion profonde, sincère, avec Dieu. Ce matin, je vous propose de voir les valeurs du royaume qui révèlent notre dépendance totale envers lui. Elles décrivent comment les sujets de son royaume vivent et comment leur vie, marquée par la grâce, influence le monde. Donc, je vous propose de regarder la première, une dépendance envers Dieu, une dépendance radicale envers Dieu, dans les versets 1 à 6. À la lecture, vous avez peut-être remarqué que la première et la dernière des béatitudes sont porteuses de la même promesse, car le royaume des cieux est à eux. C'est un peu comme si Jésus voulait marquer le début et la fin de toute son œuvre et de toutes ses valeurs. Et les versets 11 et 12 sont simplement un développement de la huitième et dernière béatitude qui s'adresse à ceux qui sont persécutés. Regardons les quatre premières béatitudes qui présentent l'attitude du disciple devant Dieu. Heureux les pauvres en esprit ou ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est être conscient de notre ruine spirituelle devant Dieu, en dehors de Dieu. C'est le contraire de l'autosuffisance. Ce n'est pas de la fausse humilité. Vous savez, la fausse humilité, ça nous irrite tous. Mais là, c'est de la lucidité de celui qui sait qu'il n'a rien à faire valoir devant Dieu. C'est la pauvreté d'un Moïse à qui Dieu commande de conduire Israël depuis le Sinaï vers le pays promis et qui répond « Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici !» Et Dieu lui répond « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est la pauvreté d'un Gédéon que Dieu appelle à délivrer Israël de l'oppression de Madian et qui répond « Ah mon Seigneur, avec quoi le délivrerai-je ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. » Et l'Éternel dit « Je serai avec toi et tu battras les Madianites. » En fond, c'est la manifestation de notre indigence, de notre insuffisance, de notre totale dépendance de Dieu. Cette pauvreté, elle s'exprime dans la prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pas Seigneur, j'ai besoin et vous faites votre liste. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est à cela que le royaume de Dieu appartient. Voilà pourquoi ils sont heureux. Heureux aussi ceux qui pleurent, verset 4. Il s'agit d'une douleur, au fond, une douleur sincère face au péché, face au mal. Il voit le monde comme Dieu le voit. et ils en sont affectés. Ils pleurent sur la laideur d'un monde qui ignore Dieu. Comme Jésus pleure sur Jérusalem. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Ou comme Paul, qui porte une grande tristesse, une tristesse continuelle pour ses frères juifs. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Ici, ceux qui pleurent, ils pleurent aussi sur leur propre misère, luttant contre le péché qui demeure en eux. Comme l'apôtre Paul qui dit en Romains 7, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Les chrétiens soupirent après cette délivrance, après cette restauration de toutes choses. Et c'est ce qui doit animer nos cœurs. Eh bien, ils connaîtront une parfaite consolation. Parce qu'un jour, en effet, Jésus essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il ne se fera plus aucun dommage, plus aucun tort. Le péché ne sera plus. Heureux les doux. Verset 5. Heureux les doux. La douceur, c'est une caractéristique essentielle du royaume de Dieu. Parce que le roi lui-même est humble et doux. Jésus affirme qu'ils hériteront de la terre, renversant totalement les valeurs du monde, où ce sont les forts qui s'imposent, qui possèdent le monde. Mais Dieu confie son royaume au doux. Le doux ne se confie pas dans sa force, il ne se confie pas dans ses relations, dans ses moyens ou dans sa sagesse, il se confie en Dieu. C'est Dieu qui juge, et c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il honore ceux qui l'honorent. Cette douceur, ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est une force enracinée dans une confiance radicale envers Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Verset 6. Les sujets du royaume, ils désirent ardemment que la volonté de Dieu soit faite, s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Justifiés par la foi en Christ, ils aspirent à une vie conforme à sa volonté. Pas légèrement améliorée, mais radicalement transformée à la ressemblance de Jésus. Et plus ils sont changés, et plus ils ont faim d'être changés, d'être rendus comme Christ. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils seront rassasiés. Ils seront rendus semblables à Christ. Ces béatitudes nous interrogent. Sur quoi est-ce que je compte réellement aujourd'hui? Sur Dieu ou sur mes propres ressources? Est-ce que je veux toujours avoir raison? Garder le contrôle? Ou bien Dieu est-il suffisamment grand pour tenir le monde entier entre ses mains? Et les détails de ma vie, est-ce que je peux accepter l'injustice en laissant à Dieu le soin de juger? Est-ce que j'ai faim d'une vie pleinement semblable à Christ? Ou est-ce que je me satisfais de mon état? Vivre les béatitudes, ce n'est pas chercher à devenir des chrétiens admirables. Mais c'est comprendre que cette vie ne peut être vécue sans Christ. Le Seigneur l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, les béatitudes, les quatre suivantes, montre que la grâce reçue en Christ ne reste jamais intérieure ou abstraite. Elle se déploie concrètement dans nos relations, avec les autres et dans nos actions. Celui qui a été gracié voit ses attitudes, ses paroles, ses choix qui sont transformés. Et c'est pour cela qu'il continue en disant « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». La miséricorde, c'est une compassion active envers ceux qui sont dans le besoin. Elle se rapporte toujours à la souffrance, à la misère, à la détresse causée par le péché, et elle vise le soulagement, le secours, la guérison. Comme l'écrit John Piper, il dit « Les chrétiens se soucient de toute souffrance, en particulier de la souffrance éternelle. Sinon, soit ils ont un cœur défectueux, soit ils visualisent un enfer sans flamme. » La mission première de l'Église est donc d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Mais lorsque l'on a connu Christ, lorsque un cœur a réellement goûté à la miséricorde divine, il est transformé et rendu prompt à faire miséricorde autour de lui. La promesse de Jésus, ils obtiendront miséricorde, ne signifie pas que la miséricorde de Dieu se mérite par des actes de miséricorde que nous ferions nous. Mais ça signifie qu'il existe une cohérence spirituelle. Celui qui a compris la grâce de Dieu reflète cette grâce dans sa vie, autour de lui. Refuser la miséricorde aux autres révèle un cœur fermé à celle de Dieu. Ce que l'on donne révèle ce que nous avons reçu. La miséricorde vécue est le fruit visible de la grâce reçue. Et c'est pour ça que notre Église a une de ses valeurs qui dit une Église qui est connectée avec son quartier et sa ville pour lui faire du bien. C'est pour cela qu'il y avait ces cadeaux du cœur, de l'espoir. C'était pour témoigner de l'amour de Christ au monde. Et c'est parce que nous avons reçu miséricorde que nous faisons miséricorde. Et puis il dit « Heureux les cœurs purs ». Un cœur pur, c'est ou intègre, se manifeste dans ses relations, sans duplicité. Il ne manipule pas. Il ne joue pas un double jeu. Il dit la vérité. Il choisit le pardon et refuse l'amertume comme la vengeance. Il rejette la médisance. Il évite les jugements hâtifs. Il honore ses engagements. Il recherche la cohérence entre ses paroles et ses actes. Cette pureté intérieure, produite par la grâce, devient visible dans une manière juste, dans une manière droite de vivre avec les autres. La promesse est qu'ils verront Dieu. Magnifique. Déjà par la foi, Dieu est devant leurs yeux. Et au fond, un cœur pur, c'est un cœur qui vit devant Dieu, sous le regard de Dieu. C'est pour cela que toute sa vie est influencée, ses paroles, ses actes, ses pensées. Mais la promesse est qu'ils le verront un jour face à face dans la gloire. Et puis, heureux les artisans de paix, verset 9. La pureté du cœur conduit naturellement à la recherche de la paix. L'artisan de paix ne se contente pas d'éviter les conflits. Il œuvre activement à la réconciliation. En Christ, Dieu a voulu réconcilier toute chose avec lui-même en faisant la paix par le sang de sa croix. Cette paix n'a pas été obtenue à bas prix. Elle a coûté la souffrance de la croix. De même, la paix véritable entre les hommes, elle est coûteuse. Elle implique de demander pardon. elle implique de reconnaître ses torts, de pardonner, de renoncer à ses droits, et parfois d'accepter d'être lésé. C'est précisément parce qu'elle coûte que la paix est précieuse. Et eux, ils sont appelés fils de Dieu, car ils ressemblent à leur père, qui a lui-même renoncé à lui-même, à sa propre vie, pour restaurer la paix. Puis enfin, dans les versets 10 à 12, il dit « Heureux les persécutés ». Malgré tous les efforts déployés pour vivre en paix, certaines personnes refusent la réconciliation. Et c'est pourquoi Paul écrit « Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Toutes les démarches de paix n'aboutissent pas. Pire encore, le choix de vivre selon les valeurs du royaume peut susciter l'opposition et la persécution. Celle-ci naît du choc entre deux systèmes de valeurs irréconciliables, celui du royaume de Dieu et celui du monde. Être persécuté n'est donc pas un échec de la grâce, mais parfois la conséquence de sa fidélité. Ainsi, la grâce reçue en Jésus imprègne, colore, parfume toute la vie du disciple, en particulier dans ses relations. Quelqu'un a posé cette question pour nous aider à faire l'évaluation de la réalité de notre foi. Voilà ce qu'il dit. Si le christianisme était interdit, comme il l'est en Iran, comme il l'est dans d'autres pays, si le christianisme était interdit, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? C'est-à-dire que l'impact de la grâce de Dieu doit être visible dans nos vies. Elle doit avoir un impact. Elle ne peut pas être cachée. Enfin, les valeurs vécues influencent nos vies tellement qu'elles révèlent Dieu. Jésus poursuit avec deux métaphores. Excusez-moi. C'est le plus grand sermon, hein. Jésus poursuit avec ces deux métaphores sur le sel et la lumière. Le sel et la lumière indiquent l'impact bénéfique essentiel que les disciples vont avoir dans ce monde. Le sel préserve, donne du goût, empêche la corruption. Il évoque ce que nous sommes devant Dieu et notre apport dans le monde par notre seule présence, alors que la lumière évoque nos œuvres envers les autres. Mais juste après avoir dit « Vous êtes le sel de la terre » ou « Vous êtes la lumière du monde », immédiatement Jésus évoque cette bizarrerie pour les sujets du royaume de perdre leur saveur. Comme si le sel pouvait perdre sa saveur. Avec quoi est-ce qu'il faudrait le saler? Le sel perd sa saveur lorsque le croyant perd de vue ce qu'il est en Christ, lorsqu'il abandonne précisément les béatitudes par un compromis parfois moral, tolérer ou normaliser un péché clair, que ce soit dans la sexualité, dans l'injustice, dans la malhonnêteté, pour rester culturellement acceptable. Il perd sa saveur, le chrétien, lorsqu'il prêche un évangile réduit au bien-être. Prêcher un message de réussite, d'estime de soi, ça va te faire du bien. Un message de prospérité, sans la croix, sans le renoncement au péché, sans la grâce coûteuse. Le chrétien perd sa saveur lorsqu'il relativise la doctrine de l'Évangile, lorsqu'il affirme que toutes les croyances se valent, minimisant l'exclusivité de Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Le chrétien perd sa saveur lorsque il a une foi, mais sans obéissance véritable, quoi. Se dire chrétien tout en vivant comme si Jésus n'était pas le Seigneur. Le résultat, le témoignage n'a plus de pouvoir distinctif. Il ne se passe rien, en fait, dans cette vie. Le sel a perdu sa saveur. Et puis, il utilise cette deuxième image avec la lumière. La lumière qui répond un peu à la seconde partie des béatitudes qui parlent de nos œuvres, de l'impact sur ce monde. Quelle est cette lumière par laquelle les disciples de Jésus éclairent un monde sombre? Au verset 16, il dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, vos bonnes œuvres, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Notre lumière est cachée lorsque les œuvres qui découlent de l'Évangile sont invisibles ou absentes. Parfois par peur du rejet, se taire sur sa foi au travail ou à l'université pour éviter des tensions. Lorsque le discipulat est absent, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas l'occasion de faire des disciples, même lorsque les occasions claires se présentent. Ou lorsqu'on compartimente notre vie, on sert le dimanche à l'église, mais on vit sans intégrité dans la sphère publique. Ou bien lorsqu'on fait des bonnes œuvres, mais sans jamais faire référence à Dieu. On agit moralement tout en refusant d'orienter les regards vers la gloire de Dieu. Le résultat ? Dieu n'est pas glorifié, même si les œuvres semblent bonnes. Les sujets du royaume perdent leur saveur lorsqu'ils perdent leur valeur, les béatitudes. Mais quand ils vivent selon les valeurs du royaume, alors leur vie a de la saveur et un éclat qui pousse le monde à glorifier Dieu. Quand ces valeurs sont vécues, le monde ne peut pas rester lui-même. Il va nécessairement changer. Lorsque Jésus prononce le serment sur la montagne, il ne s'adresse pas à un monde neutre ou spirituellement saint. Il parle à des hommes religieux, mais souvent éloignés de Dieu, à une société marquée par l'injustice, par la violence, par la dureté des cœurs. Les béatitudes ne viennent pas flatter l'homme, mais le confronter et le transformer. L'histoire montre que ce message reste d'une brûlante actualité. Avant le réveil spirituel du XVIIIe siècle en Angleterre, l'Angleterre se disait chrétienne. Les églises étaient là, mais vides. Les structures en place, le langage religieux était familier. Pourtant, la foi était largement devenue formelle, sans puissance de transformation. La morale se délitait, la violence et l'injustice prospéraient. J'ai lu qu'un bâtiment sur quatre à Londres était soit un bordel, soit un bar. Dieu était respecté de loin, mais rarement aimé et recherché. Et c'est précisément dans ce contexte de pauvreté, de misère spirituelle, de ténèbres, que John et Charles Wesley et George Whitefield ont été suscités par le Seigneur, non pour inventer un nouveau message, mais pour remettre au centre celui de Jésus. la nouvelle naissance, la repentance, la dépendance envers Dieu et une vie transformée par la grâce. Le sermon sur la montagne agit de la même manière aujourd'hui. Il renverse nos fausses sécurités et nos définitions trompeuses du bonheur. Il nous rappelle que le royaume de Dieu n'appartient pas aux forts, aux autosuffisants, aux satisfaits, mais à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, à ceux qui pleurent sur le péché, à ceux qui recherchent la justice et vivent de la miséricorde reçue. Là où ce message est accueilli, il ne produit pas seulement des émotions religieuses, mais des vies nouvelles, des relations restaurées et une influence qui révèle Dieu. Comme au XVIIIe siècle, Dieu n'a pas besoin d'une religion plus respectable, mais de disciples transformés. Le sermon sur la montagne n'est pas un idéal inaccessible ni un programme moral parmi d'autres. Il est l'appel du roi des rois à entrer dans la vie du royaume. Et là où les hommes et les femmes répondent à cet appel, Dieu se plaît encore à renouveler son Église et à transformer notre monde, notre société, nos familles, nos couples, notre voisinage. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu as visité ce monde, parce qu'une grande lumière s'est levée, parce que tu as éclairé nos ténèbres, parce que tu t'es fait homme, parce que tu as mené cette vie parfaite à qui nous fait tellement défaut. Et puis tu as livré cette vie parfaite en sacrifice pour nous, pour toutes nos fautes. Tu nous as transformés, tu nous as changés. À cause de ta présence dans nos vies, tu as mis du sel, de la saveur, tu as mis de la lumière dans nos âmes. Seigneur, nous te prions pour que nos vies soient profondément transformées, que les vérités de ta parole que nous connaissons, que nous chérissons, produisent un fruit abondant dans nos cœurs, qu'elles nous transforment à ta ressemblance. Nous te prions pour notre monde. Seigneur, c'est de cette manière-là que tu as choisi de faire la conquête d'une ville comme Toulouse, par nos vies qui prennent de la saveur en toi, dans cette dépendance de toi, dans des vies qui projettent une lumière par des œuvres bonnes. Seigneur, nous te demandons pour notre Église, pour les Églises de Toulouse, que cette saveur remplisse les chrétiens, que cette lumière jaillisse et brille de nos vies, qu'il y ait un rayonnement puissant qui te fasse pour que le monde croie que tu les as aimés en Jésus-Christ, que tu veux encore les sauver. Seigneur, agis dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu l'as toujours fait. Les réveils sont toujours passés par là. On prie pour que tu agisses, Seigneur, dans nos propres vies personnelles, quotidiennes. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen.